Pique. RFI, il est 5h à Paris, 3h en temps universel.
Juliette Pietraszewski.
Et à la une de ce journal en Guinée, l'ancien dirigeant Moussa Dadis Camara est sorti de prison. Gracié par le général Mamadi Doum Bouya, il avait été condamné en juillet pour crime contre l'humanité concernant le massacre du grand stade de Conakry. Les réactions sont nombreuses après cette grâce, notamment du côté des ONG. En Turquie, une mobilisation qui ne faiblit pas. Hier, à Istanbul, des centaines de milliers de personnes étaient dans les rues pour protester contre l'incarcération du maire de la ville, Ekrem İmamoğlu, le principal rival du président Erdogan. La Syrie a un nouveau gouvernement avec beaucoup de fidèles du président par intérim, Ahmad al-Shara, et une femme de la minorité chrétienne. Avec la fin du financement américain, on s'intéressera par ailleurs aux prisons kurdes où se trouvent des détenus européens affiliés à Daesh. Les nations européennes hésitent encore à rapatrier leurs ressortissants. En Guinée, Moussa Dadis Camara est sorti de prison. La télévision a diffusé des images hier soir. L'ancien dirigeant a été gracié par le général Mamadi Doum Bouya. On l'a appris vendredi. Au pouvoir entre 2008 et 2009, Moussa Dadis Camara avait été condamné le 31 juillet 2024 pour crime contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 au Grand Stade de Conakry. Depuis hier, les réactions se multiplient. Chez les victimes du Grand Stade de Conakry et leurs proches, c'est le choc. Pour la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, c'est la surprise et l'incompréhension. Écoutez Drissa Traoré, secrétaire générale de la Fédération, également avocat des victimes du massacre du 28 septembre.
C'est déjà une surprise et une incompréhension. Parce que beaucoup d'efforts ont été faits pour que le procès puisse se tenir. Un procès hors norme, un procès où la Guinée a montré que sa justice pouvait mener un procès de telle envergure. D'une décision a été rendue et la responsabilité du capitaine Dadis Camara a été retenue pour crime contre l'humanité et aboutit juste après ça, alors qu'il y a des appels à une grâce. Pour nous, c'est une totale incompréhension et vraiment, nous ne comprenons pas qu'on puisse arriver à cette décision en ce moment en tout cas précis. Nous comprenons que le chef de l'État guinéen, en prenant la décision que le gouvernement allait supporter l'indemnisation des victimes, voulait nous faire passer cette pilule-là, la pilule de la grâce. Nous pensons que également cette grâce vient mettre à mal et à néant tous les gros efforts faits aussi bien par les victimes, les organisations comme l'OGDH, AVIPA, la FIDH, pour lutter contre l'impunité. Et aujourd'hui, ça vient remettre en cause tout cela.
Des propos recueillis par Pierre Firsion. Deux jours après le puissant séisme qui a touché la Thaïlande et la Birmanie, le dernier bilan de la junte birmane est de plus de 1600 morts et de près de 3500 blessés. Les secours multiplient les efforts pour rechercher des survivants. Fait assez rare, les autorités birmanes ont lancé un appel à l'aide internationale hier. Plusieurs pays ont répondu, comme la Chine qui a envoyé une équipe de plus de 82 secouristes. L'Inde a également envoyé un avion militaire chargé d'aide humanitaire. La Corée du Sud a de son côté annoncé une aide de 2 millions de dollars. La Birmanie est en pleine guerre civile. Des rebelles, les forces de défense populaire, ont décrété de leur côté un cessez-le-feu partiel de 2 semaines à partir de ce dimanche pour faciliter les opérations de secours. Sur place, une grave pénurie de fournitures médicales impacte l'assistance, a averti hier l'ONU. Une pénurie notamment des kits traumatologie, de poches de sang et de produits anesthésiques. En Turquie, la résistance est partout. Voilà ce qu'on pouvait lire hier sur des pancartes de centaines de milliers de manifestants dans les rues d'Istanbul. Une manifestation à l'appel du CHP, le parti d'opposition du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, pour dénoncer l'arrestation de ce dernier il y a 10 jours. Le CHP avance même le chiffre de 2,2 millions de manifestants pour la liberté et la démocratie hier. Malgré la répression très lourde qui s'est abattue sur le mouvement de contestation, la peur des arrestations est omniprésente dans les cortèges. Comme ont pu le constater sur place nos envoyés spéciaux, Bertrand Éclair et Daniel Valot.
Lunettes noires, coiffure en pétard et drapeau turc en bandoulière, cet habitant d'Istanbul demande à plusieurs reprises de rester anonyme pour témoigner. Comme de nombreux manifestants, elle s'inquiète, nous dit-elle, d'éventuelles représailles judiciaires.
Nous vivons dans la peur. Chacun d'entre nous peut être arrêté à tout moment. Quand on voit ces jeunes qui se font tabasser, emprisonner, juger, oui, vraiment, la période que nous traversons est très difficile. Tout le monde a peur en ce moment.
Jamais à ce point, la crainte de la répression n'avait pesé sur les partisans de l'opposition. Cette jeune femme partage elle aussi cette crainte, mais veut rester mobilisée quel que soit le risque en cours.
Nous sommes allés tous les soirs devant la mairie. Nous sommes allés là où nous devions être. Et ce n'est pas seulement pour Imamoglu, ce n'est pas seulement pour le CHP, c'est pour la démocratie. Je vais continuer à défendre la démocratie. Et je n'ai peur de rien.
Depuis le début du mouvement, plus de 1900 personnes ont été arrêtées. Plusieurs centaines sont toujours sous les verrous. Et des dizaines déjà inculpées en cours jusqu'à 3 années de prison. Bertrand Éclair, Daniel Valo, Istanbul, RFI.
Au Proche-Orient, le Hamas dit avoir accepté une nouvelle proposition de trêve à Gaza, présentée par les médiateurs du Qatar et de l'Égypte notamment. Les armes de la résistance constituent une ligne rouge, a précisé hier un haut responsable. De son côté, Israël indique avoir soumis une contre-proposition à ces derniers. Le ministère de la Santé du Hamas estime qu'il y aurait plus de 900 morts depuis la reprise des frappes israéliennes le 18 mars dernier. Des bombardements qui ont mis fin donc au cessez-le-feu en place depuis janvier dans l'enclave palestinienne. La branche armée du Hamas a par ailleurs diffusé hier une nouvelle vidéo d'un otage israélien à Gaza qui appelle Tel Aviv à garantir sa libération. La Syrie a désormais un nouveau gouvernement. Le président par intérim, Ahmad El-Shara, l'a annoncé hier soir. Pas de premier ministre, mais ses fidèles occupent les principaux postes. Le gouvernement se veut par ailleurs inclusif et compte une femme de la minorité chrétienne. Toujours en Syrie, au nord-est, les détenus européens affiliés à Daesh au cœur d'une crise humanitaire et sécuritaire croissante. Ils sont actuellement enfermés dans des camps et des prisons kurdes. Mais la fin du financement américain menace la stabilité de ces structures où vivent des milliers de membres de l'État islamique, dont plusieurs centaines sont originaires d'Europe. Avec la pression croissante sur les autorités kurdes, les nations européennes hésitent encore à rapatrier leurs ressortissants, malgré les appels des ONG et des organisations internationales. Mohamed Erami.
Dans le camp d'Al-Hol, au nord-est de la Syrie, un détenu suisse que nous appellerons Fabien apprend stupéfait que l'ancien président Bachar al-Assad a fui en Russie et que Ahmed Shara, ex-leader de Jabhat al-Nusra, est devenu président de la Syrie. Ce trentenaire, originaire de la ville de Lausanne, qui avait rejoint Daesh en 2014 pour combattre Assad, ignorait complètement cette évolution politique. C'est nous qui lui annonçons la nouvelle. Cette rencontre a eu lieu au bureau des renseignements kurdes. Fabien décrit des conditions de détention qui se sont détériorées. Après 8 ans d'incarcération, l'homme explique avoir vu mourir de faim et de maladie de nombreux co-détenus. Avec 15 minutes de sortie par jour dans une petite cour, Fabien passe le reste de son temps dans sa cellule, confiné avec 25 autres prisonniers. Depuis 2017, il attend un signe de la Suisse pour son éventuel rapatriement. Privé de financement américain, il revient désormais au pays d'origine des détenus d'envisager un éventuel rapatriement ou, à défaut, de prendre en charge les coûts nécessaires pour maintenir l'activité des camps et prisons de Daesh du nord-est syrien. Mohamed Erami, Asaké, RFI.
En Ukraine, les autorités annoncent 2 morts dans une attaque russe au drone à Kharkiv. Il y aurait également 30 blessés. Un hôpital militaire a été touché. Au total, 6 frappes ont touché donc hier soir 2 quartiers de la ville qui était la 2e la plus peuplée du pays avant l'invasion russe. Direction la France pour terminer ce journal. 2024 a été une année record en termes d'expulsion de locataires. Plus de 24 000 en un an. Demain, la trêve hivernale va s'achever. Hier, une manifestation à Paris était organisée. C'est un reportage de Constantin Jallot.
Avec sa petite fille dans les bras, Aya avance en tête de cortège sous un drapeau de la Confédération Nationale du Logement. Après avoir payé 5 mois de loyer en avance, elle a réalisé que son nouvel appartement était une arnaque.
On a donné le 2000 euros, mais après une semaine, le gardien il a cassé ma porte. Le jour-là, on a découvert que cette maison était à squat. C'est catastrophe.
Cette famille de 5 doit être expulsée d'ici juillet sans solution de relogement. Des solutions, certains politiques en proposent. Mathilde Panot est députée La France Insoumise.
Si on pouvait juste réquisitionner, sachant qu'il y a en plus des millions de logements vacants dans ce pays, et construire du logement social ainsi que des places d'hébergement d'urgence, on pourrait faire en sorte de n'avoir personne à la rue. Ce qui, je rappelle, était la promesse que Emmanuel Macron avait fait en 2017 qu'il n'a jamais tenue.
C'est un véritable désastre social ce qui se passe en fait sous nos yeux.
Jean-Baptiste Hérault est porte-parole de l'association Droit au Logement.
On n'a jamais compté autant d'expulsions forcées dans notre pays. On était l'année dernière, selon la Chambre nationale des huissiers, à 24 000 expulsions, alors qu'en 1983, on était à 3 200 ou 3 300, et dans les années 70, à moins de 2 000.
L'an dernier, seuls 10 à 15% des foyers expulsés ont été relogés depuis.
Le reportage de Constantin Jallot, RFI, il est 5h10 à Paris.